RFI. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, comme chaque jour, sur l'antenne de RFI. Et nous allons commencer aujourd'hui en évoquant les champions d'Afrique qualifiés pour la CAN en Égypte, sans le privilège du statut de qualifié d'office, puisque le Cameroun n'est plus le pays hôte. Les Lions indomptables se sont rassurés en gagnant facilement face aux Comores. Mais les Comoriens ont-ils dit leur dernier mot? Ils ont menacé de contester cette qualification à leur dépend devant le TAS. Cela coûte très cher. Le manager général Benamir Saad va nous en dire plus puisqu'il est avec nous. Bonjour Benamir.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici à Paris dans notre studio de Radio Foot International. Nous évoquerons aussi aujourd'hui le Sénégal et le Mali déjà qualifiés et déjà à la préparation de la CAN. Seront-ils parmi les favoris de cette compétition ? Les Bleus en mode champion du monde, les hommes de Didier Deschamps ont écrasé leurs adversaires en ce début d'éliminatoire, offrant aux buteurs l'occasion de briller et l'occasion de montrer leur entente sur le terrain, alors qu'Olivier Giroud devient le troisième meilleur buteur de l'équipe de France, juste derrière Michel Platini. Ces éliminatoires ont cependant rarement offert des matchs équilibrés et l'on évoquera cette grande différence de niveau sur les terrains européens. Invité donc dans ce studio autour de Benamir Saadi, nous avons Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être fidèle ici le mardi, n'est-ce pas,
plaisir.
Dans Radio Foot International. Et il y a aussi Philippe Doucet qui est venu aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe. Et puis Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Dans une chemise blanche un peu...
Froissée.
Un peu Hervé Renard, je trouve.
Hervé Renard, ah, je trouve bien le compliment.
Oui.
Merci.
Et puis Antoine Grenier qui est là. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour
avec
à tous.
Un
moi,
beau...
mon pull gris ne rappelle
non.
personne.
Un beau... Vous auriez dû amener le beau maillot de l'équipe de France, là.
C'est vrai qu'il était magnifique. Maillot collector. Un peu cher, mais...
Mais tout te va, tout te va de toute façon.
Il fallait en piquer un à la fin du match. C'est Radio Foot et c'est parti. C'était donc le match de la dernière chance pour les Comoriens, pour les Sélacantes, qui est le nom de leur équipe de football, leur équipe nationale. Un vrai défi que de devoir vaincre les Lions indomptables sur leur pelouse de Yaoundé. Des Lions évidemment très motivés après les péripéties qui les entouraient. Ils se croyaient qualifiés de droit, d'office, pour être l'équipe du pays qui accueillait la CAN. Et depuis le 30 novembre dernier, eh bien le Cameroun ayant été dessaisi de l'organisation, il fallait aux Camerounais gagner leur dernier match pour s'assurer de participer à la fête en Égypte. Et les voilà donc deuxième de leur groupe derrière le Maroc et qualifiés. Et laissez la compte, me direz-vous. Eh bien, d'abord, ils terminent quatrième de ce groupe, quatrième à la différence de but avec le Malawi. Benamir, ça a dit, première chose, ce match, c'était, vous avez perdu 3-0. C'était quand même très difficile, voire illusoire, de battre les Lions indomptables chez eux.
Difficile, oui, on le savait. On était prévenus. On savait que les Lions étaient pratiquement invaincus depuis un demi-siècle chez eux. Mais on avait nos armes. On est parti en espérant faire un exploit, puisque dans le football, c'est le seul sport, en tout cas l'un des rares sports où l'exploit est possible. Donc on est très déçus du résultat. Mais voilà, on a vu un peuple, on a vu un pays qui était derrière l'équipe du Cameroun. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est leur seul match de qualif qu'ils ont joué pendant toute cette phase.
Ah bah oui, évidemment, parce que si vous les battiez, ils terminaient plus deuxième du groupe, et là, ça compliquait toute l'histoire. Justement, vous estimiez que, en fait, ce match n'aurait pas dû avoir lieu, que le Cameroun, en tant que pays organisateur, ne devait pas, dessaisi, tant que pays organisateur des saisies, donc n'était plus qualifié d'office et en fait n'aurait pas dû être qualifié pour ce match.
Oui, si la CAF avait appliqué le règlement, ce match-là n'aurait pas dû avoir lieu. Le Cameroun aurait déjà serait déjà disqualifié et nous serions déjà en train de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Donc la CAF a voulu maintenir ce match. Contre le règlement, donc c'est pour ça que nous avons saisi l'OTAS à cet effet. Si l'OTAS s'était prononcé avant, ce match-là n'aurait jamais eu lieu.
Alors saisir l'OTAS, ça coûte très très cher. Vous l'avez fait malgré tout. Comment avez-vous fait pour réunir l'argent?
On a lancé d'abord nos conseillers, nos avocats ont demandé la gratuité de la procédure, étant donné que c'est un appel, et souvent les procédures d'appel sont gratuites, donc ça a été refusé par le TAS. On connaît les moyens limités de notre fédération, donc on a lancé une cagnotte en ligne.
Oui, parce que le tribunal arbitral du sport, basé en Suisse, les procédures ont des coûts assez élevés.
Très élevé, et c'est là aussi un combat, mais peut-être on en reparlera, c'est aussi un combat à mener pour les petites fédérations comme les nôtres, qui se trouvent dans des continents où les moyens financiers ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc on a lancé une cagnotte en ligne il y a quelques semaines, et les supporters ont répondu massivement. Aujourd'hui, on est à 19 000 et quelques.
19 256 tout à l'heure, juste avant l'émission.
Tout à fait, exactement, et donc je tiens à les remercier. On a aussi des entreprises qui nous ont rejoints, des associations et autres, et donc c'est ce qui nous donne aussi la force de pouvoir continuer, parce que aussi ils voient cette décision une injustice.
Et il faut arriver à combien du coup?
Déjà, la première étape, c'était d'arriver à 24 000. C'était ce qu'on appelle le dépôt de la provision au niveau de frais administratifs. Ouais. Ce qu'on a fait mercredi dernier, pardon. Et donc là, maintenant, on attend la suite de la procédure.
Mais ça peut coûter beaucoup plus cher.
Ça va. Nous, on a estimé avec les frais d'avocat et tout ce qui en suit à 140 000 euros.
Ah oui, donc bien sûr, on en est loin. Presque 10 fois plus que ce que vous avez gagné.
Oui, mais on a aussi de l'espoir derrière. On a des échos de personnes qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous dire qu'ils vont nous soutenir. Donc on a bon espoir. Ça donne aussi, je pense que pas beaucoup de personnes déjà quand on a lancé la cagnotte en ligne n'espéraient avoir cette somme-là et avoir atteint 20 000 euros pratiquement en quelques semaines. Ça donne aussi de l'élan et ça donne aussi de la motivation à certains.
Naïm ou Gilles, une question?
Oui, parce que le problème, en fait, parce que cette histoire, au-delà de l'argent, du coût de la procédure, moi, ce qui m'inquiète surtout pour vous, c'est les délais. On est le 26 mars. Oui, 26 mars. La CAN commence le 21 juin. Donc, ça veut dire que dans moins de 3 mois aujourd'hui, la compétition débute. Le tirage au sort a lieu le mois prochain. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez des garanties ou des indications sur le délai sur lequel le TAS va se prononcer? À quel moment est-ce que vous allez avoir un embryon de réponse? Parce que finalement, ces problèmes de timing avec le TAS, ça rejoint les problèmes de timing de la CAF qui a annoncé le glissement
de
la CAN. Voilà.
Donc, toute cette réorganisation.
Et qui est un des problèmes majeurs de toute cette histoire, en fait.
Des garanties, non, mais on sait que si tout se passe bien maintenant, si les deux parties jouent le jeu, parce que là aussi, il y a une question de jouer le jeu aussi au niveau de la CAF, si les deux parties jouent le jeu, une décision devrait être prise d'ici début de mois de mai.
Mais est-ce que la CAF joue le jeu? Vous avez des contacts avec la CAF, vous? On sait que le président de votre fédération connaît plutôt bien le président Hamad, qui était à Madagascar et par proximité...
Solidarité des îles.
Voilà, par solidarité et par voisinage, on sait qu'ils se connaissaient bien.
C'est ce qu'on regrette en fait depuis le début, hein, c'est le manque de communication. C'est-à-dire même avant même qu'on saisisse le TAS, on avait écrit à deux reprises à la CAF et on n'a eu aucune réponse. On l'a mis dans notre procédure d'appel. Il a fallu qu'on saisisse le TAS pour qu'on reçoive une lettre de la CAF le lendemain pour nous dire qu'en fait ils n'ont pas retiré au Cameroun mais ils ont en fait reporté. Et donc le report, si report il y avait, il n'y aurait pas eu de CAN en 2019. Donc quand on reporte, on ne joue pas une compétition. Donc malheureusement c'est ce qu'on déplore. On a aussi écrit, vous l'avez vu dans les médias, à la FIFA pour
à la secrétaire générale, à la secrétaire générale
pour pouvoir nous aider, on va dire aussi bien financièrement, mais aussi au niveau du dialogue. La FIFA nous a répondu très rapidement en nous disant que c'est une affaire qui concerne la CAF et les Comores, mais en tout cas ils s'ouvraient au dialogue, qui nous voulait soutenir le dialogue entre la CAF et les Comores pour essayer de trouver une issue favorable. Donc on a suivi les recommandations de la FIFA, on a écrit à la CAF. En tout cas, notre président a écrit à la CAF en essayant de chercher une audience pour échanger. Et jusqu'alors, toujours pas de réponse.
Qu'est-ce que vous réclamez, vous, par rapport aux résultats dans le groupe ? Est-ce que vous réclamez le retrait de tous les matchs disputés par le Cameroun ou vous réclamez seulement le retrait du dernier match ? Il y a deux articles. Il y a l'article 61 et l'article 92.3.
Non, le règlement là-dessus, en tout cas, nous, la manière, on le lit. Après, chacun peut l'interpréter à sa manière.
Il n'y a pas longtemps, la Sierra Leone a été suspendue. Ils ont enlevé tous les résultats de tous les matchs. Ouais,
parce qu'ils n'avaient joué que deux matchs.
Exactement. En fait, ça dépend du stade de la compétition. Et là, on était à un seul match de la compétition. Donc, normalement, c'est le match Cameroun-Comores qui devait être annulé, donc de 3-0. Après, là aussi, j'ai lu beaucoup de choses et même le classement que vous annoncez. Aujourd'hui, on annonce les Comores 4e, mais c'est ça, il n'est pas dit que le Comores soit quatrième. Si je lis le règlement aujourd'hui encore de la compétition, il n'y a pas de goal à virage particulier. Tout se joue sur le goal à virage entre les deux équipes d'abord. Donc là, il est nul. Sur le nombre de buts marqués entre les deux équipes, là aussi, il est nul. Et ensuite, en recours, c'est le nombre de buts marqués dans la compétition. Et là, nous, en termes de nombre de buts...
Il n'y a pas le but à l'extérieur.
Non, il n'y a pas le but à l'extérieur. J'ai le règlement ici, vous pouvez le lire, je peux vous le passer. Il n'y a pas, à aucun moment, on parle de but à l'extérieur.
J'avoue que j'ai pas vérifié.
Qui pourrait faire la différence.
Ouais, on parle simplement, à la fin, en tout recours, de nombre de buts. Puisqu'on a égalité partout, nous avons marqué 5 buts lors de cette phase des éliminatoires. Et le Malawi en a marqué 2.
Gilles ?
Alors, moi j'ai toujours trouvé, je vous l'ai toujours dit ici, cette requête parfaitement légitime, mais j'ai toujours pensé qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir. Donc, avant de vous...
Sympa.
Je vais pas changer, en présence de monsieur auquel je vais poser une question. Mais pourquoi ? Parce que selon moi, vous prenez l'ensemble des articles et leurs alinéas très complexes, et vous tirez tout dans le sens des Comores, ce que je comprends parfaitement, et votre requête est légitime à votre avis. Mais c'est-à-dire que vous demandez l'annulation d'un résultat. Donc maintenant, on est dans l'antériorité. Le match a eu lieu. À la limite, si vous n'aviez pas disputé le match, j'aurais pu entendre, nous disputons le match. Vous avez joué ce match.
Mais la requête a eu lieu avant le match,
oui,
Gilles.
Oui, mais vous demandez...
Si je ne présentais pas, c'était pire, Gilles.
Pire. Vous voyez, quand vous dites pire, c'est déjà un jugement.
Non, mais pour eux.
Article que si on ne se présente pas, on est éliminé de la compétition.
D'accord, vous vous présentez, vous jouez, et après vous dites non, on n'a pas été battu. Je finis juste.
Vas-y.
Ensuite, c'est vrai que la CAN, le Cameroun en a été dessaisi temporairement, et tout est là dans ce glissement, dans ce report, à la limite.
Elle n'est pas dessaisie temporairement, puisque la CAN, de toute façon, aura lieu ailleurs, elle n'aura pas lieu au mois de décembre.
Non, elle aura lieu la prochaine fois au Cameroun.
Oui, mais que ce soit un retrait ou un glissement, si au mois de juin elle ne se dispute pas sur le sol camerounais, elle est retirée.
Gilles. La confusion de vos arguments montre que j'ai raison. Merci.
Mais non, c'est
et donc,
la confusion.
Je finis en vous disant que vous demandiez l'exclusion du Cameroun de la CAN qu'il va lui-même organiser en 2021. Là, je comprendrais.
Non,
mais pas de cette CAN. Non, mais si vous demandiez ça, je vous comprendrais. Mais je ne vous comprends pas.
C'est ce que dit l'article en plus. Et c'est ce qui était arrivé au Maroc.
Le problème, Gilles, c'est que tu vas à l'encontre des articles par pur esprit de contradiction.
Peut-être des articles, mais pas de leur alinéa.
Donc
ma question sera, monsieur, est-ce que vous n'avez pas l'impression, par cette requête jusqu'au boutiste, de bafouer le football ?
Non, justement. Je pense que nous, alors je vais répondre de manière très simple et de manière très calme. On avait un joueur, notre meilleur joueur, qui était suspendu lors du match Cameroun-Comores. Nous, on aurait aimé aussi bafouer les règles et demander à ce que notre joueur joue les jeux. Malheureusement, les règles sont dites que lorsqu'on a deux cartons jaunes, on est suspendu. Zidane, qui soit Zidane qu'il est, quand il a eu un carton rouge en finale de Coupe du Monde, on n'a pas dit « Ah, c'est Zidane, il faut le maintenir sur le terrain ». Il y a une règle, carton rouge, c'est exclusion. Nous, ce qu'on demande, c'est l'application des règles, tout simplement.
Gilles, tu viens de bafouer le journaliste.
Et aujourd'hui, quand on a disputé, quand on discute avec des journalistes, quand on discute même avec les responsables de camerounais, on nous sort le poids du football camerounais. Bien sûr, on saisit le poids du football camerounais. Bien sûr, on saisit l'histoire. Bien sûr, l'importance. Mais la CAF a obligation d'équité sur tous les membres qui sont présents.
Excusez-moi, Benhamir. La CAF dit... elle dit quelque chose d'un peu ambigu parce qu'elle est gênée, évidemment, parce que le texte a été refait après l'épisode Maroc 2015 où le TAS a donné raison au Maroc et a supprimé la suspension. Donc on a écrit le texte de manière très dure en ne tenant pas compte du fait que éventuellement quelqu'un pourrait se voir retirer la CAN pour des bonnes raisons, parce qu'il n'est pas, par exemple, de passer à 24. Franchement, soit dit en passant, si le Cameroun avait d'entrée été au TAS et avait mis la CAF au tas en disant qu'est-ce que c'est que ce passage express à 24. Voilà. Oui. Il n'y aurait jamais eu de problème, tout aurait été à renégocier. Bon, ça, passons, puisque Caramonde ne l'a pas fait, ils se sont plantés là-dessus, ils feront la CAN 2021, n'en parlons plus, enfin, peut-être. Mais au-delà des textes et autres, moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que je reconnais que quand on lit les textes purement, ça vous semble vous donner raison. Et là où on est troublé, c'est que la CAF dit « Oui, mais j'ai un article à moi, je ne sais pas où il est d'ailleurs, qui dit que il y a de l'interprétation. » Est-ce qu'il y a effectivement quelque part dans les textes quelque chose qui pourrait laisser la part à l'interprétation ? Parce que si on prend une pure logique, on pourrait très bien imaginer que la CAF sanctionne quelqu'un qui a rien foutu, un organisateur qui n'a rien foutu et qui mérite une sanction. Et puis on pourrait dire aussi que de temps en temps, il y a des circonstances exceptionnelles qui font que, bon bah voilà, on décale, on ne sanctionne pas, etc. Donc sur le plan de la pure logique, je comprends très bien que la CAF ne veuille pas sanctionner le Cameroun. Mais est-ce que le texte, est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte qui peut permettre effectivement à la CAF d'avoir une interprétation ?
Non, et c'était souligné dans notre mémoire d'appel, l'article 92.3 ne donne aucune exception, mais vraiment aucune. Là-dessus, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reviens encore sur le poids de l'histoire de Cameroun et je vois le match qu'ils ont livré. Il y a eu tout le pays qui était derrière le Cameroun, il y a eu une mobilisation générale, parce que effectivement l'enjeu était important, mais nous aujourd'hui, quand on a saisi le TAS, c'était en connaissance de cause, en sachant que d'ailleurs vous avez vu Constant Omari qui est venu ici dans votre studio, qui est parti aussi sur le plateau de Canal+, pour lui le match était déjà joué d'avance, de toute façon, les Comores ils allaient au Cameroun, ils avaient aucune chance, et je vous avouerai que à la lecture de la première mi-temps, lorsqu'on a eu une faute qui peut se siffler comme penalty n'a pas été sifflé, j'ai vu encore le spectre. Après, le résultat final aujourd'hui ne souffre d'aucune contestation, on est d'accord là-dessus. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on demande purement et simplement, c'est que la CAF respecte toutes ces associations qui sont affiliées, donc qu'on s'appelle les Comores ou le Cameroun, on a droit au respect, on a droit à ce que le règlement soit appliqué pour tous.
Philippe avait un point important, c'est qu'en fait, il semble y avoir deux règlements. Un officiel que tout le monde connaît, qui est en ligne et qu'on peut consulter, et qui donne raison, en tout cas qui autorise le Comore à avoir un espoir que le tribunal arbitral du sport penche à sa faveur, et un règlement quasi invisible que seuls les dirigeants de la CAF ont et qui viennent justifier toutes les incohérences de la CAF dans ce dossier, c'est-à-dire le fait de charger le Cameroun sur son incapacité à construire les stades, son incapacité à répondre au cahier des charges, qui aurait dû l'exclure, et ça ne souffre d'aucune contestation, c'est le règlement, il doit être exclu, mais qui d'un autre côté, il y a une espèce de culpabilité de la CAF qui dit, nous comme on les a mis un petit peu dans la mouise en passant de 10, de 16 à 24 tout de suite,
on n'ose pas les
on va les maintenir, voilà. Et en fait c'est ça, c'est un problème juridique et administratif qui aujourd'hui vient pénaliser les Comores.
Une dernière question, Antoine.
La question de l'après, tout simplement. Si jamais la CAF vous donne tort, vous avez déjà réfléchi à cette éventualité-là, ou vous êtes simplement, pour l'instant, dans l'optique de « on a raison, donc on va gagner ».
Non, nous, on se soumettra à la décision du TAS, puisque ça fait partie des statuts de la CAF. Et la CAF aussi a obligation de se soumettre aux décisions du TAS. Et ça aussi, je voudrais souligner que la CAF reconnaît le tribunal arbitral du sport comme étant une juridiction à arbitrer. Nous, notre inquiétude aujourd'hui, c'est que la CAF ne vienne pas autour de la table, autour de l'arbitrage. Et c'est là l'inquiétude, ça serait aussi un aveu de culpabilité. Puisqu'aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est que, étant donné qu'on se donne raison et que la CAF se donne raison, ce qui est légitime, sinon il n'y aurait pas arbitrage. Donc nous, on veut y aller jusqu'au bout pour qu'il y ait arbitrage sur ce fait-là et que la décision qui sera prise par le TAS soit appliquée. Nous, si le TAS nous dit que nous avons fait une mauvaise lecture, on admettra.
Vous n'irez pas à la justice commune ?
La justice commune, on dit qu'on irait si, seulement si, la justice, le tribunal arbitral du sport n'était pas en mesure de pouvoir, on va dire, juger cette affaire, c'est-à-dire si aujourd'hui la CAF refusait, ce qui serait une faute grave, refusait de venir mm-hmm. au TAS.
Philippe ?
Oui, je vais vous poser une question dans les yeux. En télé, ça marche bien, mais là, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen, je le consens. Non, j'ai été un peu troublé, je vous avoue. J'ai été troublé par une information qui m'est revenue du Cameroun, du week-end que vous avez passé au Cameroun pour jouer ce match, qui me dit que vous auriez proposé
au Cameroun, en gros, de se mettre d'accord pour qu'il y ait 25 équipes à la CAN. Et moi, ça me gêne beaucoup parce que je trouve que ça affaiblit complètement votre position. Moralement, je trouve que on peut pas d'un côté dire il faut appliquer le règlement, puis dire d'un autre côté, bon, allez, on se met d'accord, puis on fait la CAN à 25.
Non,
voilà, à mon sens.
Les choses ne sont pas aussi simples que vous le posez. Nous, ce qu'on demande encore une fois, c'est l'application de la règle, c'est-à-dire du règlement. Donc, si le règlement est appliqué, les Comores remplacent le Cameroun. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun a un statut particulier qui peut l'autoriser à un moment donné, une fois que les sanctions sont appliquées, à saisir la CAF sur son statut particulier. Le statut particulier que le Cameroun a, c'est qu'ils sont champions en titre. On sait que dans certaines disciplines, il y a ce qu'on appelle la white card, une invitation spéciale. Et pour défendre son titre, il peut exister une white card, c'est-à-dire invité à venir défendre son titre à ce sens-là. Mais
ça c'est pas dans le règlement non plus. Donc
non, c'est pas dans le règlement.
C'est compliqué d'inventer un autre règlement.
Nous aujourd'hui, la seule chose que nous demandons, c'est l'application des règlements.
Mais vous avez proposé effectivement cette solution et donc d'être à 25 à la CAN, c'est
non,
vrai?
Non, on a échangé autour, on est venu autour de la table avec le Cameroun pour leur montrer les éléments qui sont sur la table, ce que le Cameroun risque, et l'échange, nous ce qu'on demande, ce qui est un dialogue autour d'une table, et ce qui est et que la CAF puisse prendre ses responsabilités.
Gilles, je n'ai aucun lien organique avec la CAF, je le précise avant ce que je vais dire, mais quand vous dites, monsieur, à votre culpabilité de la CAF de ne pas venir à la table, moi, si je viens à une table où je risque des sanctions terribles, et qu'une manœuvre stratégique, dilatoire, conseillée par de bons avocats, me permet de ne pas m'asseoir à cette table, monsieur, jamais je n'irai m'asseoir à cette table. Si la CAF ne va pas s'asseoir à la table, c'est pas parce qu'elle est coupable, c'est parce qu'elle est intelligente, peut-être, et qu'elle réfléchit en se disant, si je n'y vais pas, on ira avec le Cameroun à la compétition, et les Comores, on jugera plus tard. Donc quand vous dites à votre culpabilité, je trouve que là, et c'est ça qui affaiblit votre position, vous jugez avant même la discussion. Moi si j'étais la CAF, je n'irais pas.
Aucunement, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est simplement que la CAF reconnaît le tribunal arbitral du sport comme étant une instance pour pouvoir juger les incompréhensions et les délits au niveau sportif, et c'est dans son devoir, comme dans notre devoir à nous, de nous présenter devant ce tribunal-là.
Je vais vous poser la question froidement, mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le fait d'être les Comores, un petit pays de football avec moins de moyens que le Cameroun, ça vous dessert dans ce dossier ?
Est-ce que vous pouvez répondre à ma place ?
Oui.
Voilà.
Ben Amir Saadi, merci beaucoup d'être venu dans Radio Foot International pour nous expliquer votre combat plus en détail. Et évidemment, on suivra ça grâce à vous. Mais je vous invite à continuer à parler football dans notre studio si vous le voulez.
Merci.
En tout cas, à 7h, les champions d'Afrique en titre remettront donc leur couronne en jeu en principe en Égypte en juin prochain. Des Lions vraiment indomptables. En tout cas, eh bien, le groupe n'est plus vraiment le même qu'en 2017 au Gabon. Et un attaquant de la Ligue 1 aimerait bien se faire une place parmi ces Lions. C'est Stéphane Baoken, actuel joueur du club d'Angers. Il compte 5 sélections, mais à cause d'une blessure récente, il n'a pas pu jouer samedi. Il le regrette beaucoup. Stéphane Baoken, interrogé par Cédric de Oliveira.
Dans le foot, on sait qu'il faut jamais être sûr, qu'il faut toujours être le meilleur. Devant, en attaque, il y a beaucoup de concurrence, donc je suis pas sûr d'être dans cette liste-là, mais j'ai quand même prouvé au coach que je peux être dedans. Et ces dernières années, j'évolue, je suis devenu international, et quand on évolue, quand on devient international, forcément, on a envie de jouer de grandes GC Anches. La CAN, c'en est une, et ça serait vraiment une grosse déception que je la fasse pas. Donc bon, on verra comment ça va se dérouler, mais je sais que en continuant à être sérieux, en continuant à être efficace en club, il y aura que du positif.
Alors il y a votre père, Paul Baoken, qui est un ancien international camerounais. Il a participé à la Coupe du Monde 1982 notamment. C'est un atout d'avoir un père qui a aussi connu la sélection. Vous échangez tous les deux, il vous donne des conseils.
Oui, il est fier, il est très content que je sois en sélection, c'est ce qu'il voulait, c'est ce que moi aussi je voulais. On s'appelle pratiquement tous les jours, et voilà, quand je vais en sélection, à chaque fois il me répète, quand t'es en sélection, il faut que tu sois décisif pour déjà d'une garder ta place et pour rester dans cette sélection. Donc je sens quand il me parle qu'il est fier et qu'il aimerait, et que moi aussi j'aimerais que rester. Et pour rester, il me donne des conseils, comme d'attaquant, il faut que tu sois décisif, donc marquer ou faire marquer.
Le Cameroun a connu un coup dur il y a quelques mois, c'est le retrait de l'organisation de la CAN au profit de l'Égypte. Comment ça a été vécu, cette décision, par le groupe, par les joueurs ?
Enfin, on l'a mal pris, on l'a mal vécu parce que le groupe, le pays, nos familles, voilà, on avait une grande joie à accueillir cette compétition au Cameroun et le fait est que certaines instances au Cameroun ben n'ont pas réalisé les projets demandés par la compétition, ben on était triste, malheureux, mais bon, encore une fois, je pense que ce n'est que partie remise. On attendra l'année où on pourra l'organiser, mais c'est vrai que cette année, on se faisait tous une grande joie et le coach particulièrement qui nous disait. Qui à chacun de ses discours nous appuyait sur le fait que ça déroulait au Cameroun. Mais bon, voilà, au final, ça s'est pas fait. Donc.
Un petit mot justement sur votre sélectionneur Clarence Seedorf. Comment ça se passe entre vous ?
Ça se passe plutôt bien. C'était un grand joueur et les conseils qu'il nous donne, qu'il me donne personnellement, c'est des conseils que je prends avec attention. Et ça se passe bien. Voilà, il rigole avec tout le monde. Il rigole. C'est un grand déconneur. Mais quand il faut être sérieux, il reste sérieux. Et on peut dire pour l'instant la relation qu'on a lui et moi, elle est saine d'un coach à un joueur. Et
vous sentez qu'il y a quelque chose qui se crée autour du sélectionneur? On s'en rend pas compte de l'extérieur. Vous venez d'arriver dans cette équipe du Cameroun, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe?
Ça m'inspire beaucoup de bonnes choses. C'est surtout le coach qui s'appuie sur de former un groupe, pas des individualités. Il insiste pour vraiment former un groupe pour qu'on soit tous ensemble. Unis, ils nous répètent souvent à quel point on a d'énormes qualités, que voilà, en Afrique, les Camerounais ont les plus grosses qualités physiques, et que voilà, en travaillant, en étant sérieux, en étant unis ensemble, on pourrait réaliser de grandes choses. On voit qu'il veut vraiment redonner une grande dynamique au Cameroun.
En ce moment, vous réalisez, je crois, votre meilleure saison en Ligue 1, vous me dites si je me trompe, c'est 9 buts cette saison.
C'est ça, 9 buts et 2 passes D. Je me voyais faire un petit peu mieux, mais encore, la saison, elle est pas finie. Après, comparé à la saison dernière, donc j'ai progressé parce que la dernière, je les avais fini à 7 buts. Là, je suis à 9 buts et 2 passes D. Donc, il reste encore 8 matchs et j'aimerais marquer le plus de buts possible. C'est ce que je voulais, c'est rester en Ligue 1 dans un club et confirmer la saison intéressante que j'avais fait l'année dernière.
Il y a quelques années, là, quand vous avez signé à Strasbourg, vous imaginiez en tout cas faire ce parcours, retrouver la Ligue 1 et puis devenir international. C'était un choix osé de carrière.
En fait, c'était le plan de carrière que je voulais. Je voulais, en partant de Nice, refaire les étapes par étape, à savoir voilà, recommencer par National, Ligue 2, Ligue 1. Je suis allé à Strasbourg. Je pensais pas qu'on allait monter aussi vite, mais au final, ça m'a porté chance à moi et à eux en fait. C'est exactement ce que je voulais et au final, je suis vraiment dans le plan de carrière que je voulais faire.
Voilà Stéphane Bahoken, donc interviewé par Cédric De Oliveira et qui nous livrait eh bien son analyse un peu autour de cette équipe du Cameroun. Philippe, le Cameroun champion en titre qui donc va remettre son titre en jeu. Qu'est-ce qu'il faut ce groupe selon vous? Il y a certains joueurs qui ne sont plus là. On pense à Benjamin Mokanjo par exemple. Puis il y en a d'autres qui sont blessés aussi parce que Bahoken n'était pas le seul blessé.
Vincent Aboubakar
bien sûr.
Devant il y a du. Mais Toko Ekambi était suspendu. Non il manquait.
En plus
manquait
lui il avait des
joueurs.
Ouais. Mais que vaut le groupe camerounais actuellement?
Si on regarde le match, je pense que Benamir Saadi ne dira pas le contraire. Si on regarde le match, franchement, le Cameroun a été très bon. Ils ont été fidèles à la fois à leur état d'esprit et ils ont été en plus plutôt bons dans le jeu. Maintenant, c'est une heureuse surprise parce que ça fait pas loin de 2 ans qu'on les avait pas vus. On avait leur état d'esprit de la CAN 2017 est une valeur qu'il faut mettre en avant parce qu'ils avaient une équipe moyenne plus, on va dire moyenne plus, qu'ils ont mené jusqu'au bout avec un état d'esprit remarquable, mais l'équipe n'était pas exceptionnelle. Et malheureusement, elle l'a confirmé en grande largeur à la Coupe des Confédérations, dans les qualifs de la CAN, enfin toutes les 2 années qui ont suivi, bon, qui ont mené d'ailleurs au départ du Gobros, un intérimaire ensuite, la nomination de Clarence Seedorf, qui lui-même a eu 4 premiers matchs très très moyen, très difficile.
Mais Bahoken nous dit, ça se passe plutôt bien entre Seedorf et les joueurs.
Oui,
on était un peu sceptiques, mais
d'entente, je pense. Mais honnêtement, sur ce qu'on voyait sur le terrain, c'était très très médiocre depuis 2 ans. Mm-hmm. Et là, ce match-là, comme par hasard, on a retrouvé la magie du Cameroun, ce stade plein, la tribune Chaba en face, là, en folie, la pluie qui vient se mêler à ça, un état d'esprit de, bon, que les Comores n'ont pas résisté, c'est tout à fait normal, on peut pas leur en vouloir, il y a eu un moment où ça allait trop vite et l'équipe était transfigurée par rapport à ce qu'elle a montré dernièrement, à l'image de son capitaine Choupo-Moting. Qui joue pas souvent en championnat, mais qui a été royal au bar, quoi, qui était
Clinton,
assez exceptionnel.
Clinton Engie qui rentre, qui marque, alors qu'à Marseille, il n'est pas un pied devant l'autre.
Non. Ouais. Gilles?
Moi, je crois pas au sélectionneur. C'est-à-dire que pour moi, il n'y aura pas de miracle Zidorf. Je sens pas l'osmose se faire. Alors, vous me direz, vous n'êtes pas un oracle du football. Pas du tout. Mais j'y crois pas. C'est un mercenaire. Je vois pas l'implication. Ce sont les fruits du hasard. Une nomination circonstancielle.
Tu l'as pas vu danser dans le vestiaire.
Ah, je sais qu'il danse très bien. Il a toujours très bien dansé. Mais je ne crois pas qu'il puisse transmettre. Alors vous me direz, parfois le Cameroun se construit dans des compétitions contre le sélectionneur. Voilà. Ils savent passer outre. Avec Zidorf, je n'y crois pas.
Mercenaire, je trouve que le mot est un peu fort parce qu'il aurait pu aller prendre beaucoup plus de pognon ailleurs qu'au Cameroun.
Ah, il en prend beaucoup,
après,
là.
Après, sur le niveau et sur le message et sur le... Je suis tout à fait d'accord avec tous les deux. Le Cameroun n'est pas bon dans le jeu depuis 2 ans, mais individuellement, c'est tellement disparate entre parfois de bons attaquants et, ou alors une défense solide, puis des personnes au milieu pour faire le jeu, ou alors des attaquants qui marquent, mais des ballons qui arrivent pas. La CAN 2017 en a un très bon exemple, hein. Il a gagné à l'arrache, un peu comme le Portugal avait gagné l'Euro, mais sans vraiment développer de football. Pour moi, c'est pas une favorite de la CAN 2019 et c'est assez logique.
Bon, ben, on verra ça en tout cas du côté de l'Égypte en juin prochain. Et d'ici là, il y aura sans doute des matchs de préparation que nous suivrons avec intérêt.
Mbappé le centre, la tête d'Oumtiti, c'est le but, un coup de casque d'Oumtiti, oui. Et la France mène 1-0. Côté des Français avec ce nouveau centre, Giroud qui marque, les Bleus qui mènent 2-0. Griezmann, Kylian Mbappé, pour le troisième, il est là Kylian Mbappé, 3-0. Oh, il est là le quatrième, le pied gauche d'Antoine Griezmann, c'est la fête au Stade de France, la France écrase l'Islande, 4-0.
Une belle victoire donc pour les Bleus hier soir au Stade de France où vous étiez Antoine Grenier, des Bleus qui portaient un maillot bleu France comme le voudrait théoriquement la couleur du bleu sur le drapeau national. Alors sous ces couleurs, comme l'autre maillot qu'ils avaient utilisé, plus bleu marine en Moldavie, les hommes de Didier Deschamps ont inscrit à nouveau 4 buts, ça fait donc 8. Leur motivation a l'air d'être au top.
Oui, c'était peut-être pour célébrer le centenaire de la fédération française.
C'est ça qui les a motivés
parce que le maillot bleu roi, il était là pour ça. Non, hier ce qu'on a vu, c'était il y avait une équipe qui est championne du monde cet été en Russie et de l'autre côté une équipe qui n'a que 2 phases finales de grandes compétitions dans les jambes et qui ne met plus un pied devant l'autre depuis bientôt 500 jours. Les Français se sont rendus le match facile après 12 minutes avec le but de Umtiti. Ensuite ils ont accumulé les occasions. Quand on suit les matchs, quand on les commente, on a un petit déroulé qu'on se fait des occasions de chaque équipe. Et ben, la colonne France, elle est remplie. La colonne Islande, il y a une petite occasion à la 49e minute. Les Français ont vraiment poussé jusqu'au but de Giroud à la 68e, sont 35e en équipe de France. Et puis après, Mbappé, Griezmann qui parachève un succès 4-0 qui était logique. Et qui avait de l'allure, mine de rien.
Naïm, oui. On y viendra après sur la faiblesse des adversaires dans cette phase et dans ces 2 matchs qu'ils ont disputés. Mais quand même, on se souvient des erreurs passées, notamment une qualification en 2012 pour un euro.
Le 0-0 contre le Luxembourg en 2017.
Exactement,
bien sûr, oui.
Des petits accidents de parcours comme ça. On a l'impression que là, peut-être que cette équipe de France et ce groupe autour de Didier Deschamps apprend de ses erreurs.
Non, mais vous avez raison de le souligner, parce que régulièrement, dans les éliminatoires, quand on dit la France a un groupe facile, Deschamps a de la chance au tirage, ça va passer, c'est toujours ricrac. Donc cette double confrontation, elle a montré une chose, c'est que même contre des petites équipes, il y a un état d'esprit, il y a des automatismes dans le jeu, on n'a pas peur d'assumer son statut, on marque des buts, c'est très bien. On peut toujours redire, parce que il y a beaucoup de frappes à l'entrée de la surface qui finissent dans les tribunes ou à côté, voilà, au niveau du nombre de buts marqués pour le nombre d'occasions, on peut trouver à redire, mais sur les 180 minutes qu'on a vu, moi j'ai vu une équipe de France qui assumait son statut pleinement, qui est bien au-dessus de ses adversaires, qui joue bien, qui apprend de ses erreurs, et c'est plutôt de bon augure pour la suite.
Gilles,
la dernière Coupe du Monde, c'était pas la fin d'un cycle, l'aboutissement, c'était le début d'un cycle. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec cette jeunesse, si aujourd'hui vous prenez l'échiquier du football européen, je vais pas dire mondial, mais du football européen, je mets au moins 7 bleus dans le 11 type. Donc avec 7 bleus dans le 11 type, je veux déjà vous annoncer qu'on va survoler le prochain Euro. Mais c'est mathématique le football. Ce sont des équations. Bah presque tous ou même 9 si vous voulez. Mais on a les meilleurs partout. On a le meilleur milieu de terrain, les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs centraux, peut-être le meilleur gardien. Il y a pas mieux. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Les autres sont malaxés, pulvérisés. Même s'il y a un petit accro en Turquie, on va survoler ce groupe et on est très très fort avec Deschamps qui leur a dit tout de suite vous êtes champion du monde, je m'en fous, on oublie tout. Plus ces joueurs-là qui maintenant ont envie de gagner, comme c'est autre rarissime chose. De le faire, l'Euro et puis encore après la Coupe du Monde, on va aller très loin. Puis
vous allez avoir du boulot hein, si vous restez sur le.
Ah, avec Antoine, je ne demande que ça.
Non, mais plus sérieusement.
Merci.
Désolé. Je souscris en partie d'ailleurs à ce que dit Gilles. Effectivement, l'équipe de France est une bonne équipe, c'est une réalité. Mais ce qu'on a peut-être vu là, sous réserve, parce que il faut aussi se remarquer que la Ligue des Nations on n'a pas survolé la Ligue des Nations non plus, donc on va pas tirer trop vite de conséquences de leçons de ces deux matchs. Mais est-ce que l'équipe de France ne va pas nous refaire le coup de 98-2000, c'est-à-dire une équipe qui gagne en 98 mais un peu dans la souffrance, enfin sur ses valeurs.
En fait, vous êtes d'accord avec moi, quoi.
Sur des vraies valeurs. non, mais j'y viens. Est-ce que l'équipe de France ne va pas progresser? Moi, ce que j'ai pas entendu comme mot ici là, c'est est-ce qu'elle n'est pas en train de progresser? Je pose la question. Je n'ai pas la réponse de façon certaine. J'attendrai de voir d'autres matchs. Il en faudra bien d'autres. Mais rappelons-nous qu'entre 98 et 2000, l'équipe de France avait grandement progressé. En 98, elle a gagné sur la puissance de sa défense, sur quelques coups d'éclat très bien.
Et la hargne.
Mais en 2000, l'équipe de France qui gagne l'Euro, certes de justesse, mais en qualité de jeu, est sensiblement meilleure que celle de 98.
En qualité de jeu.
Est-ce que ce sera pareil en 2020 par rapport à 2018? Je le souhaite parce que je pense que 2018, l'équipe de France a gagné la compétition. Ça n'est absolument pas discutable. On n'a pas survolé la compétition, on peut pas dire ça non plus.
Non, mais sur la qualité de jeu, je suis entièrement d'accord avec toi. Philippe, non, faut dire un truc, c'est que tu te rappelles également des éliminatoires de l'Euro 2000,
oui.
Où tu te qualifiais à la dernière journée sur un péno face à l'Andorre.
Est-ce que c'est vrai, mais il y avait eu quelques matchs. Très abouti, il y avait eu
le football de sélection le football de sélection avait encore un certain niveau par rapport à aujourd'hui. Et quand tu vois, on va y venir, la faiblesse de l'adversité sur une poule comme ça, ne pas se qualifier rapidement, ça serait quand même très compliqué.
Antoine, on en parlait quand même de cette progression peut-être de l'équipe de France. Et ce que vous disiez ce matin quand on préparait l'émission, c'est que peut-être la Ligue des Nations avait eu un rôle dans cette progression aussi.
Oui, l'élimination en Ligue des Nations, c'était la conséquence d'une décompression tout simplement. Les Français étaient champions du monde, donc ils avaient dû digérer tout simplement ce titre. On a le sentiment maintenant que les Bleus, ça y est, ils sont passés à autre chose. Hugo Lloris, le capitaine, nous parlait de tourner la page. On a le sentiment que cette équipe de France a tourné la page avec les mêmes joueurs, parce que cette équipe de France, 10 joueurs sur 11 étaient des joueurs qui étaient là lors de la Coupe du Monde et qui étaient les titulaires.
La Ligue des Nations, tu joues les Pays-Bas, l'Allemagne, aucune équipe qui ne fait pas la Coupe du Monde, une équipe qui sort au premier tour. Et quel est vraiment l'intérêt de cette Ligue des Nations?
Mais en fait, l'intérêt pour le coup de cette Ligue des Nations, ça leur a montré qu'ils pouvaient perdre.
De jouer des bons matchs.
Ça montrait aux Français qu'ils pouvaient perdre, parce qu'ils n'avaient pas perdu depuis mars face à la Colombie. Et là, ils ont pris une claque contre une équipe des Pays-Bas qui était composée. Il y a des joueurs de talent, Ryan Babel, De Ligt, mais c'est pas encore le top européen. Les Français ont perdu ce match-là à Rotterdam. Ils ont compris qu'ils devaient donner autre chose. Et c'est ce qu'on a vu. Et le début de ces qualifications, c'est typiquement ça.
Tu peux tirer une leçon morale de la défaite contre les Pays-Bas de la Ligue des Nations, mais si tu prends la compétition elle-même par rapport à l'enjeu des éliminatoires de l'Euro, à quoi ça sert?
Non, mais c'est peut-être de passer à autre chose finalement. Gilles?
Griezmann, Mbappé, c'est l'arme fatale. C'est pour moi, le meilleur duo d'attaquants. Alors, on peut dire que c'est pas un duo stricto sensu, mais leur complicité technique.
Quand ils jouent ensemble, quand ils jouent ensemble.
Là, ils ont joué ensemble. Oui. À chaque fois, c'est but passe décisif. C'est inarrêtable pour toutes les défenses.
Eh ben, on va écouter Didier Deschamps, que vous avez évidemment rencontré hier soir après le match. Et on va l'écouter, Didier Deschamps, parce qu'il évoque un peu ses améliorations. Et finalement, on va entendre, c'est quand même un sélectionneur très heureux.
Oui, il y a de la fluidité, il y a de la cohérence, il y a des affinités. technique, de la complémentarité aussi. Ça n'a pas été toujours le cas, même si c'est sur le plan offensif, on était avec les mêmes joueurs, mais le fait de répéter, il se trouve de mieux en mieux, même si l'adversaire, l'Islande, est resté très défensif, c'est pas évident de trouver les solutions. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ils jouent les uns pour les autres, à faire marquer, à marquer. Donc il y a cette faculté qu'on a à pouvoir mettre en difficulté l'adversaire et se créer des occasions.
Surtout, on pense à l'entente peut-être entre au-delà de Griezmann, Pogba, il y a aussi Mbappé et Giroud. Enfin, on a l'impression que c'est quatre joueurs même très complices.
Ouais, il y a même plus que ces joueurs-là. C'est Gilles tout à l'heure parlait de Griezmann, Mbappé, c'est difficile de ne pas compter Pogba dans cette
Absolument.
Relation technique-là, parce que c'est lui la rampe de lancement de Griezmann et Mbappé. Ensuite, Griezmann, Mbappé, on les a vus bonifier, notamment sur le but de Griezmann à la 84e, et cette talonnade absolument magique de Kylian Mbappé qui est donnée exactement dans le bon tempo pour que le défenseur soit battu. Bref, ce rapport technique-là entre Griezmann et Mbappé interrogeait un petit peu avant la rencontre, et la bonne prestation de Pogba a fluidifié la relation entre Griezmann et Mbappé. C'est très encourageant, c'était un des axes de progression et il est en train effectivement d'être travaillé et de marcher.
Gilles. Pour revenir sur la Ligue des Nations, à l'automne et à l'hiver dernier, fin de l'année dernière, il y avait quand même un petit souci de rivalité lié à l'attribution du Ballon d'Or. Et ça a joué beaucoup dans les affinités Griezmann-Mbappé. Là, non mais oui, mais c'est réel, Philippe.
Ce que vous me dites m'attriste.
Bah oui, mais c'est réel, parce que on sait très bien que chacun voulait le Ballon d'Or. Griezmann peut-être plus qu'Mbappé.
Il y avait eu deux interviews,
si vraiment c'était ça, c'était terrifiant.
Non mais dans la relation technique, parfois, Philippe, vous connaissez l'âme humaine et plus que tout l'âme sportive humaine.
Bah, je connais aussi les grands champions, et les grands champions ne s'ennuient pas avec des considérations aussi basses.
Bah moi,
je pense
que parfois ça a pu peser un tout petit peu. Maintenant, tout ça est derrière nous.
En tout cas, écoutons aussi Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a évoqué Paul Pogba et son entente avec lui.
Paul, c'est le joueur dont on a besoin. On a NG qui récupère les ballons. On a Paul qui, quand il joue simple, c'est vraiment l'un des meilleurs à son poste. Donc voilà, on est très heureux qu'il soit français et qu'il nous aide à gagner les matchs.
C'est vrai que Paul Pogba est peut-être dans une très grande forme, Philippe Doucet. C'est ça que vous vouliez dire?
Il est pas mal. Il est pas mal, Paul Pogba, effectivement. Et, non, mais c'est vrai qu'il a une influence essentielle.
Mais il faut pas oublier toutes ces années.
Ce que j'aime pas, c'est qu'on ne relie pas les choses. Kanté a été remarquable contre l'Islande.
Mais il le dit d'ailleurs, vous avez entendu.
Oui, tout à fait.
NG, parce qu'il faut décoder, c'est pas NG. C'est pas le Camerounais.
Non, mais il a été remarquable. Je veux pas qu'on sépare. Ah ben oui, non, mais c'est milieu défensif, donc non, il n'a rien à voir. Si, bien sûr, la récupération, la transmission rapide qui fait que très vite ça va devant, évidemment, ça permet à Mbappé de marquer derrière.
Donc
il ne faut pas séparer et dire juste qu'il y a quatre joueurs géniaux, Pogba. Puis le reste, c'est rien du
Moi,
tout.
Moi, je veux pas séparer, non. Mais par exemple, Paul Pogba, c'est vrai que pendant l'Euro en 2016, on attendait le grand
sûr.
Paul Pogba.
Et
pendant longtemps, on l'a attendu jusqu'à la Coupe du Monde.
C'est vrai.
Et là, on a l'impression que là, on l'a enfin, et sur la durée.
Non, mais jusqu'à l'Argentine,
tu pouvais l'attendre. Pogba, sa phase de poule n'est pas extraordinaire.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a trouvé à la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on l'a trouvé, qu'on le garde.
Sa période post-Coupe du Monde est très bonne, que ce soit en club ou à sélection. Paul Pogba, on l'a vu avec Manchester. À partir du moment où Solskjaer est arrivé sur le banc, on a retrouvé le bon Pogba, fort, influent, leader. Et c'est pareil en équipe de France, ça ne se dément pas.
Pourquoi croyez-vous que Deschamps veut rester à la tête de cette équipe? C'est qu'il sent bien que ça marche.
Progresser.
Que non seulement ça marche entre eux et que ça marche avec lui. Que sa relation, qu'il croit en cette équipe, qu'il a une relation forte avec ces joueurs-là. De ce point de vue-là, c'est une réussite totale. Et Pogba continue parce que tout va bien avec Deschamps, tout va bien avec le reste du groupe. Pogba est un personnage un petit peu atypique. Quand il est bien dans la bonne humeur et le bon état d'esprit, il est fantastique.
Antoine.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Antoine Griezmann, c'est quand il parle de la simplicité du jeu de Pogba. Elle avait été louée lors de la Coupe du Monde, cette simplicité. On l'a retrouvée là sur les deux derniers matchs face à une adversité qui n'avait rien à voir avec des équipes que les Français ont pu croiser en Coupe du Monde. On peut aussi peut-être y voir un petit message à l'adresse de Kylian Mbappé, qui a fait deux bon match, voire deux très bons matchs contre la Moldavie et l'Islande, mais qui s'est parfois un petit peu compliqué la vie.
Il a marqué
contre la Moldavie, il a été actif, il a pas été en réussite contre la Moldavie, mais il a été présent, Kylian Mbappé. Je pense qu'il y avait un petit message à l'adresse de Kylian Mbappé qui a un petit peu cherché à chaque fois la passe compliquée avant que ça fonctionne.
Si c'est le cas, c'est extrêmement fin de la part de Griezmann. Je dis pas que Griezmann n'est pas un garçon très fin, mais je trouve que ça serait quand même du sacré troisième degré. Et deuxièmement, Griezmann, il a un peu oublié comment il jouait quand il arrivait en équipe de France aussi. Reprocher à Mbappé de vouloir en faire trop, le dribble de trop, machin, quand tous les jours tu es une star internationale et une ascension fulgurante, on dit que t'es un phénomène, le meilleur joueur du monde à 20 piges, c'est normal de vouloir croquer. C'est aussi le rôle de Deschamps et des cadres de le remettre dans le droit chemin. C'est normal de vouloir croquer.
Et Griezmann est un cadre.
Je crois pas que ce soit plus Mbappé. Je pense surtout qu'il souligne que quand Paul Pogba, qui a un talent monstrueux mais qui veut toujours en faire trop, et quand on parlait de sa mauvaise période, c'était aussi ça c'est vraiment pour Pogba. Je crois pas que ce soit à direction de Griezmann, parce que je crois pas que Griezmann parle beaucoup d'Mbappé en général.
Ben Amir Saada, comment vous les voyez, ces Bleus, et comment sont-ils vus des Comores?
C'est vrai que là-bas on supporte aussi l'équipe de France, hein, connaissant l'histoire entre les deux pays. Mais c'est vrai qu'en fait cette équipe est née lors de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, tous les observateurs le disent, ils ont une marche de progression devant énorme, et Gilles l'a dit. Et quand on a un joueur de 20 ans qui est champion du monde, qui a encore tout à prouver, c'est valable pour Mbappé en équipe de France comme à Paris. Parce que quand Neymar débarque à Paris, il vient pour être la star. Et il vient, en fait, finalement, il découvre qu'il est dans l'ombre d'Mbappé. Et c'est pareil pour Pogba, c'est pareil pour les autres lumières de l'équipe de France. Quand on a un joueur comme ça, qui prend ses responsabilités et qui rarement va faillir, cela va automatiquement augmenter le niveau de tous les autres bons joueurs. Parce que à 20 ans, on va cristalliser, on va dire, toute la force, et lui, il va pas reculer. Et je pense que l'équipe de France va grandir avec ce joueur dans les 10, 15, 20 années à venir.
Ce qu'il faut quand même voir, c'est que sur cette double confrontation, tu n'as pas Coman, d'accord? Tu n'as pas Dembélé. Tu te rends compte le réservoir extraordinaire de cette équipe, et tous peuvent être titulaires. Moi, j'en veux dire, je n'en ai pas un qui est au-dessus d'autre. Alors évidemment, on parle d'Mbappé, mais lui, à la rigueur, on sait que sur du plus ou moins court terme, il va glisser dans l'axe. Mais tu te rends compte le réservoir infini, les possibilités que tu as.
Mais là, on parle que de l'attaque, parce qu'en défense, il n'y avait pas Hernandez. Il n'y avait pas Benjamin Mendy, s'il revient un jour, mais il n'y avait pas non plus Ferland Mendy. Bref, il y a un réservoir dans cette équipe de France à quasiment tous les postes, qui est
assez phénoménal. D'où pour moi la nécessité de ne pas tarifier trop Mbappé.
C'est une équipe qui est faite à l'image de Deschamps. C'est-à-dire que Deschamps a la même mise sur cette équipe-là, donc elle peut la modeler. Donc il y a pas de l'entraîneur gère son équipe, elle va grandir avec.
Ils vont grandir ensemble.
Ils vont grandir ensemble, et c'est de bon augure.
Gilles.
Après Deschamps, ça va être la construction ou le suivi psychologique des joueurs, au sens où Mbappé, star international, convoité déjà sans doute par le Real, Griezmann, que tous les clubs vont s'arracher, etc. Donc, quand ils viennent en équipe de France, c'est une sorte, je dirais pas de cure de jouvence, mais un bien-être psychologique que Deschamps instaure. Donc, on aura Deschamps, profitons-en. On aura Zidane, et mon inquiétude, c'est pour après. Donc, on se reverra dans 8 ans, et là, on flippera. Mais pendant 8 ans, pour moi, cette équipe de France, elle est bâtie pour régner sur le monde. Je ne vois pas qui, mais quand vous regardez tous
c'est
les effectifs...
C'est ce que disait Napoléon, et puis bon, ça
a
pas marché.
Et ça a duré... Ah, mais Waterloo est venu bien après 8 ans. Donc, laissez-moi mes 8 ans, et après, on en reparlera. Mais je ne vois pas qui peut nous arrêter. Prenez tous les effectifs. Tout le monde est vulnérable, sauf nous.
C'est ce qu'on disait en 2002. On en a encore pour 8 ans avec cette équipe.
On n'avait pas Mbappé. Et Zidane était blessé. Il était blessé, Philippe, en 2002.
Gilles Verdez nous prédisait les meilleures choses pour l'équipe de France avant le début de la Coupe du Monde en Russie.
Il n'est pas une phase finale d'aucune compétition où Gilles Verdez n'a pas annoncé la victoire de l'équipe de France. Donc forcément, de temps à autre, il a eu raison.
Antoine.
Voilà, en tout cas, les Bleus.
Vous pour conclure.
Voilà, les Bleus ont fait le boulot. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2013 que l'équipe de France marque 4 buts dans 2 rencontres consécutives. C'est de bon augure pour les 2 déplacements qui viennent face à la Turquie et face à l'Andorre. Ce sera en juin et les Turcs et les Andorrans sont prévenus. Le tarif, c'est 1 but de Giroud, 1 but de Griezmann, 1 but de Mbappé et 1 but d'un défenseur central. Vous choisissez lequel.
C'est pas assez. Hein. Il faut plus que ça contre Andorre.
Benamir Saadi, merci beaucoup d'être venu à Radio Foot ici en présence. Merci à tous et à demain.